Transfemme.
Une émission de radio queer et féministe basée à Marseille, par et pour des personnes transfemmes, pour se faire du bien, partager nos questionnements, nos doutes, ce qui nous passionne et donner de la visibilité à nos vies. Avec des invités, des chroniques, la musique live, des reportages, des montagnes russes émotionnelles, des témoignages, un agenda, un rendez-vous mensuel, le 4e lundi du mois, sur Radio Galère.
Bonjour, ici Edna et Heidi.
Bonjour Edna, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va.
Donc on est dans les studios de Radio Galère. On est de retour après un mois de pause et une équipe un peu réduite, donc là on est deux. Et donc du coup aujourd'hui, le programme, le menu de cette émission, on va commencer par un petit survol de l'actualité trans. Donc on va parler de la situation des personnes trans en Ukraine. Ensuite, on vous présentera un entretien avec l'association Genre des Luttes, qui est un projet formé autour d'un fonds d'archives trans basé à Marseille. Ensuite, un entretien avec Clovis Maillet, suite à sa conférence aux Beaux-Arts de Marseille, qui a eu lieu en février-mars.
Ouais, février.
Sur les représentations de la transidentité au Moyen-Âge. Ce qui nous donnera l'occasion de faire beaucoup de blagues sur les seins trans. Voilà, et du coup, comme d'habitude, entrecoupé de moments musicaux T-40.
Que tu nous as déniché.
Que je vous ai
avec
déniché.
Brio.
Avec brio.
Comme à chaque année. Comme à chaque année.
Et on finira par un petit agenda communautaire de Marseille environ. Alors du coup, la guerre en Ukraine.
Ah mon Dieu. Alors ben, moi je me suis dit que ce serait quand même cool de commencer des fois l'émission avec un peu des petits survols de l'actualité trans, parce qu'il se passe plein de choses et que ça soulève plein de questions. Et ce mois-ci, il y a deux choses qui ont retenu mon attention particulièrement. Dans notre dernière émission, je sais pas si tu te rappelles, Edna, en février dernier, on a un peu évoqué la guerre en Ukraine et on se demandait un peu qu'est-ce que ça représentait pour les personnes trans, le fait que la mobilisation générale soit décrétée, par exemple. En gros, pour les personnes qui nous écoutent, depuis le 24 février, il y a la loi martiale qui a été imposée en Ukraine dans le cadre de l'invasion de la Russie. Et cette loi-là stipule que tous les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de traverser les frontières de l'Ukraine et ont l'obligation de défendre le pays. Et bah, évidemment, c'est une mesure qui pose problème pour les personnes transféminines qui n'ont pas fait le changement d'état civil et qui ont encore des papiers avec l'inscription de sexe masculin, bien que leur présentation soit complètement féminine. Et bien depuis le début de l'invasion de la Russie, les témoignages de personnes trans commencent à sortir dans les médias occidentaux notamment. Et il y a un de ces témoignages-là qui a retenu mon attention dans le Vice World. On peut lire une interview avec Zee Famelou, une femme trans qui est également une chanteuse et une personnalité médiatique qui vit à Kiev. Dans l'article, elle raconte devoir rester cachée chez elle alors que tous les habitants de son quartier sont partis. Elle sait évidemment qu'elle n'a aucune chance de fuir avec les papiers qui indiquent le mauvais genre. Et elle raconte aussi comment le processus en fait de changement d'état civil en Ukraine est extrêmement abusif. C'est-à-dire qu'il faut passer plusieurs mois en institution psychiatrique où elles subissent une batterie de tests hyper humiliants pour prouver leur identité de genre. Donc, résultat, la plupart des personnes trans préfèrent garder leurs anciens documents et dans le contexte actuel de la guerre, ben, elles doivent rester cachées. Mais la guerre apporte aussi des nouvelles craintes. Maintenant que le gouvernement a remis des armes à quiconque souhaite combattre et défendre le pays, ben Famelou partage sa peur de vivre désormais entouré de gens armés, dont les personnes transphobes qui s'en prenaient déjà à elles avant la guerre. Donc je sais pas si tu peux imaginer
l'enfer.
Vivre entouré, ouais, non, ça glace le sang complètement. Et la seule lueur d'espoir dans tout ça, dans le contexte, c'est qu'il existe des groupes qui viennent en aide aux personnes LGBTQI+ en Ukraine pour les faire sortir du pays. Il y a un activiste qui s'appelle Rain Dove qui est cité dans l'article du Vice qui dit qu'il fait partie d'un groupe qui a soutenu plus de 700 queers dans leur fuite et que la meilleure stratégie en fait pour les personnes transféminines c'est de carrément détruire leurs papiers ou les cacher pour passer la frontière et passer à titre de non-ukrainienne avec les personnes de d'autres nationalités, donc de faire semblant qu'elles ne sont pas ukrainiennes, donc elles peuvent plus facilement sortir. Et apparemment, avec cette stratégie-là, ben, il y a 100% des personnes qui arrivent à sortir, en tout cas dans les personnes qui ont été soutenues par ce groupe-là. Donc, ça donne un peu une idée de ce que ça représente être trans dans un contexte de guerre. C'est un peu affreux, mais bon, voilà, c'est ce qui se passe là-bas. Et évidemment, avec la guerre, c'est aussi devenu extrêmement difficile de trouver toutes sortes de médicaments en Ukraine, à commencer par les hormones. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais régulièrement, il y a des envois là, qui partent depuis le début de la guerre de différents endroits en France, et notamment de Marseille. Donc si vous voulez soutenir les personnes trans qui sont bloquées en Ukraine en envoyant de l'argent ou en envoyant vos surplus d'hormones, vous pouvez trouver comment faire en nous contactant à transfm@riseup.net. Parmi ce qui est demandé comme médoc, on parle d'ostro, on parle de testo, mais on parle aussi de pilules du lendemain, de pilules abortives et également de PrEP. Donc si vous avez accès à ça, contactez-nous pour qu'on vous relie à la team qui gère l'envoi. Et maintenant, j'avais envie de poursuivre avec une petite pause musicale pour écouter le titre Undiscovered Animals de Zee Famelou, qui est la meuf trans qui est citée dans l'article du Vice, et que vous pouvez également suivre sur Instagram. On va mettre le lien sur la page de l'émission. Donc, on peut enchaîner avec Undiscovered Animals.
Myself morph into a crayon and fly away with my flock to where my lands. Some things are just impossible to explain, no matter how hard you try. And there's no way to resist or spell body knives. No wonder girls run around you just like this. I wanna do. And ladybugs, don't fear the world that punishes you for creating miracles. I'd rather drink from a poisonous lake than miss a chance to hold you in my arms. You're like a sweet homemade marmalade. What's not to love about you? I invite you to tremble. Beyond the mind, coming out and discovered in me.
stay heated. I understand.
Trop classe, merci Heidi d'avoir, d'avoir déniché ce son et cette info.
Ça fait bien plaisir, à toi Edna.
Et bah du coup maintenant on va passer à la partie sur genre des luttes. Donc Paul est allé farfouiller dans les archives de genre des luttes. Elle en a profité pour interviewer Clémy et Samuel de l'association qui vont donc nous présenter ce projet d'archives trans unique en France.
Je fréquente tous les pays du monde à longueur d'année. J'en connais 2000. Moi, j'appelle pas ça des transsexuels, je dis les femmes de l'an 2000. Car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. J'en connais 2000 à travers le monde qui sont superbement heureuses, bien dans leur peau, qui s'amusent.
Quel jour ?
Il est jeudi 10 mars.
Et on est avec Clémy et Samuel de Genre de Lutte. Peut-être Clémy, tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que Genre de Lutte ?
Genre de Lutte, c'est un fonds d'archives et un centre documentaire sur les luttes trans, la transidentité, transitude et la transphobie.
C'est un centre qui est à Marseille, c'est ça ?
Qui est à Marseille pour l'instant.
Et ça existe depuis combien de temps, Genre de Lutte ?
Un an et demi,
ouais.
Ouais.
Oui, on approche d'un an et demi.
Oui.
Oh mon dieu. À la base, ça partait d'une conversation entre Adriane, qui est une autre membre de l'association, et Karine Espinera, sociologue, qui a travaillé sur le sujet, qui habitait Marseille, qui a fondé Sans Contrefaçon. Il y avait beaucoup de choses dans les archives qu'elle nous a données qui traduisaient un peu cette époque-là aussi.
Et beaucoup de matériel de recherche, des trucs de sociaux un peu plus obscurs, un peu plus... Il y avait vraiment beaucoup de choses très différentes.
Il y avait une envie de faire de l'archive déjà là. Et un jour, elle est partie de Marseille, elle nous a filé deux sacs remplis de plein de trucs. Et ça a commencé comme ça. Et on s'était dit... Qu'on allait faire une asso d'archives, du coup. Et j'en ai parlé à Samuel en le croisant dans un bar un peu au hasard.
Ouais.
Et comme toi, de ton taf
Ben, moi, je venais de terminer un DUT métier du livre, en fait. Et à ce moment-là, je travaillais dans une asso d'archives. Et du coup, j'étais à fond plan de classement, catalogage, je faisais tout ça de mes journées. Et je me suis dit, écoute, je vais faire ça de mes week-ends aussi. Voilà. Je vous ai rejoint à ce moment-là.
C'était drôle parce que nous on avait aucune idée de comment faire un plan de classement, aucune idée de comment on fait ces trucs là. On était un peu. Tu nous as un peu structuré.
Ouais.
Parce que du coup là on parle de structure des archives, mais vous en tant que groupe, en tant qu'association, comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous choisissez de travailler dans une mixité particulière étant donné que c'est des fonds d'archives trans ?
Non, non, mixité trans. Bah, le but, c'est vraiment de parler de nous en notre nom, en fait. De pouvoir porter la parole de la communauté trans. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des personnes trans à leur place dans les médias, dans les discours un peu généraux. Et l'idée, c'était de se réapproprier notre histoire, notre discours.
C'est intéressant que tu parles de se réapproprier les discours et les histoires parce que finalement, quand on regarde vos fonds, on se dit finalement qu'est-ce que c'est qu'une archive trans ? Est-ce que c'est une archive qui est produite par des personnes trans ou qui est produite sur les personnes trans ? Comment vous définissez un peu, vous, les documents et les matériaux qui sont susceptibles de vous intéresser ou qui sont susceptibles d'enrichir votre fonds
Pour moi, c'est tout ce qui va parler de transidentité, tout ce qui permet de rendre compte de comment on parle de nous, de comment on est représenté, et aussi de comment on parle de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de documents transphobes, justement, de documents de psy, de trucs hyper médicalisants, on est un peu là aussi pour replacer tout ça dans un contexte.
Il y a des psychiatres notamment, enfin des médecins et des psychiatres qui aimeraient bien faire un peu l'histoire sur notamment les violences médicales et tout, cacher un peu ce qui s'était passé à l'époque. Et quand je parle de l'époque, c'était pas vieux, hein, genre 5-6 ans, quoi. Et c'est aussi bien de pouvoir garder les archives de ces trucs-là. Je vais être très clair, hein, je pense par exemple au lien qu'il y a entre la SOFECT, qui était une institution médicale maltraitante, que je pense que plus ou moins tout le monde connaît, je vais pas en faire une présentation, et cette nouvelle structure qui est Transsanté, où il y a une tentative de cacher les liens qui unissent un peu ces deux structures-là. Alors que c'est un peu aussi le rôle de l'archive, c'est qu'on a des preuves que ce changement de nom est conscient, a été décidé en assemblée générale à la SOFECT. Donc on a des archives de ça, et je trouve ça bien aussi de archiver pour pas que des gens essayent de travestir l'histoire.
Déjà, pour moi, d'un point de vue personnel et militant, la mémoire, c'est la transmission de savoir situé. Alors, j'y vois une sorte d'héritage qui était construit par une sorte de mutualisation d'expériences individuelles et collectives sur le temps. Alors, il y a, à mon avis, parmi les enjeux, justement, de cette transmission, et on va dire de cette mémoire qui va s'enrichir, c'est déjà de permettre les passages au relais et de pas partir au point zéro. Et je pense que ça, pour moi, c'est un premier enjeu. Alors, je vais essayer d'illustrer. Alors, dans ce que je vais dire, à aucun moment je suis péjorative, hein, je me le permettrai pas. Et puis ça m'intéresse pas. Mais je voulais donner par exemple, qui m'est arrivé d'entendre des jeunes militants et militantes dire que il y avait rien, comme si finalement ils partaient, ce que je disais, dans ce point zéro. Et donc ça soulève un premier enjeu, c'est qu'il y a un problème. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème d'archives, il y a un problème de mémoire, il y a un problème de transmission, il y a un problème de passage au relais. Si les gens pensent qu'il y a rien à eux, on a un problème. La mémoire, elle permet de prendre en considération justement ces héritages, hein, de pouvoir partir de quelque chose et pas se dire avant moi rien. Au contraire, avant moi il y a quelque chose. Moi-même, je pense que peut-être même sans le savoir, j'ai hérité du travail d'autres personnes qui m'ont précédé. Et c'est important, même si je ne le connais pas, c'est important de me dire que il y a peut-être même des gens qui ont pris des coups, hein, pour que moi je puisse être à l'ASB en 96, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est une chose importante. Alors après, l'autre enjeu, j'en ai déjà un peu parlé, c'est celui du pouvoir et de la matérialité, parce que ça se traduit à travers plusieurs questions. C'est dans quelles conditions est-ce qu'on produit, dans quelles conditions est-ce qu'on diffuse, hein, est-ce qu'on a les pouvoirs de produire et de diffuser, est-ce que et ces pouvoirs finalement, nos pouvoirs, qu'est-ce qu'ils valent par rapport à des savoirs qui eux sont hégémoniques, qui sont surplombants, et d'ailleurs qui sont souvent le fait de personnes qui produisent cette fois-ci sur nous. Alors peut-être un des autres enjeux encore à travers ces questions-là, c'est comment est-ce qu'on peut rendre aussi cette mémoire accessible, hein, et surtout la rendre à portée, voilà, qu'elle soit à la portée de tous et de toutes.
De ça, je sais pas, dans 15, 20, 30 ans, si je sais pas, dans une société idéale où on peut transitionner comme on veut à notre rythme, où on n'est plus obligé de passer par des psys, par des parcours officiels, par tout ça, que les bébés trans dans 30 ans sauront pourquoi on s'est battu, sauront par quoi on est passé, comment on en est arrivé là. Je pense que c'est important de se souvenir de tout ça. Et puis on n'est pas non plus que trans. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur le genre de manière générale, sur le féminisme, sur l'homosexualité, la bisexualité. Il y a plein de trucs qui reflètent un peu la, j'ai envie de dire, la multiplicité de qui on peut être. Ouais.
Parce que dans ces archives, il y a plusieurs types de documents. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des différentes sortes d'objets qui sont recueillis et
préservés? Bah, bon, bah déjà, on a des livres, beaucoup. On a un truc, on a des banderoles de manif.
Ouais.
Ouais, je suis assise dessus d'ailleurs.
Oui, t'es assise dessus. Oui, c'est clair. Bah, que d'ailleurs, on a ressorti un peu pour le 8 mars. On a des archives, on a quelques pancartes vite fait.
Ouais.
On a des fanzines, on a des magazines.
On a des brochures.
Des brochures, des affiches.
Ouais. On a. Il me semble qu'on a aussi des comptes rendus d'AG, d'assaut.
Ouais, des archives associatives.
Ouais.
On a des DVD.
Des archives numériques.
On a, alors, des archives numériques, ça c'est un point qui est.
Ouais, qui est encore délicat.
Qui est compliqué et délicat, mais. Parce que faire de l'archivage numérique, ça demande. Déjà, ça demande des compétences en informatique. Et surtout, ça, en fait, ça demande de l'argent, en fait. Ça demande de l'argent, ça demande d'acheter des disques durs très volumineux, ça demande d'en acheter même plusieurs, d'avoir un stockage sur internet. Enfin, c'est. On a un disque dur, qui est un disque dur d'archives du Lodoti. Ça vient d'une époque où archiver ce qui se faisait sur internet, c'était pas compliqué parce qu'il n'y avait pas grand chose. Maintenant, si on veut archiver tout ce qui se fait sur le sujet sur internet, je pense que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ou alors c'est un travail de titan. Genre un truc con, mais comment t'archives Facebook, comment t'archives Instagram, c'est pas possible.
Mais pour revenir du coup aux archives qui sont là, ou comment elles sont arrivées ici, c'est quoi la provenance un peu des fonds?
Mais il y a beaucoup de choses qui viennent de Karine, ouais, à la base.
Après, c'est de nos fonds à nous aussi, ce qu'on avait quand on a lancé l'assaut, ce que toi t'avais, moi j'avais, Adrien avait. Ça a contribué à. En fait, on avait quand même, nous personnellement, pas mal de choses qui ont contribué à faire un petit début en fait.
Et puis il y a eu le Lodoti.
Puis le Lodoti, donc, qui était une asso d'archives en Bretagne, qui a cessé ses activités et qui nous a du coup laissé récupérer une partie des archives qu'on est toujours en train de cataloguer. Ouais.
Puis nous, ça nous permettait de nous l'approprier aussi, de vraiment tout fouiller, tout explorer, de savoir ce qu'on rentrait.
C'est quoi les différentes activités qui sont menées au sein du genre de lutte? Je pense qu'il y a tout un travail de classement et de catalogue.
Ouais. Ouais, pour l'instant c'est surtout ça. On a participé au Tidor aussi. On a fait une projection pendant le Tidor.
C'est quoi les moyens dont vous disposez pour faire fonctionner l'association?
Pour l'instant c'est surtout du bénévolat. Hein.
C'est surtout du bénévolat, ouais. Et c'est surtout du fric perso qu'on met, qu'on met dans l'assaut. De l'argent à nous.
Mais ça m'amène un peu à une question sur c'est quoi le. Qu'est-ce que vous envisagez aussi pour. Comme développement pour ces archives-là? De quelle manière vous avez envie que ça évolue?
Moi j'aimerais bien que les documents circulent un peu plus. C'est vrai que pour l'instant, c'est.
Avec du prêt du coup?
Ouais. C'est un truc dont on parle assez souvent qui n'est pas forcément hyper facile à mettre en place. Bon, déjà parce que le local c'est chez Adriane, donc forcément c'est difficile pour que les gens circulent, etc. La consultation c'est uniquement sur rendez-vous, tout forcément. Mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus accessible. Quand on parle d'archives, on imagine souvent une espèce de tas de vieux machins poussiéreux. On est aussi là pour les faire vivre, et que si on les garde aussi précieusement, c'est pour qu'elles nous servent aujourd'hui.
Ouais.
Mais Clémy, j'ai entendu qu'il y avait possiblement un partenariat ou une mise en commun des archives de mémoire de sexualité et de genre de lutte dans un nouveau local.
Ouais, alors c'est pas vraiment une mise en commun, c'est plus qu'on aurait un espace dans le nouvel espace où on pourrait. Où il y aurait une conservation des archives de genre de lutte. Mais ça resterait deux assos séparés pour des questions de. D'indépendance, que ce soit politique ou sur les archives. Quoi.
Merci pour nous avoir accordé du temps à Trans FM pour parler de genre de lutte j'ai hâte de voir comment ça va grandir.
Bah ouais.
Mais merci à toi.
Avec plaisir.
J'ai hâte de voir comment Trans FM va grandir.
Le troisième modèle est celui de l'archive vive, vivante, productive, performative. C'est un peu le nôtre à Paris, à Lyon, à Marseille. Il génère une promesse archivale très différente et des archivés nettement moins passifs. Avec ce modèle, quand on parle archive, on parle futur. Parce que la promesse est d'intervenir sur la découpe de l'archive là, maintenant, en fonction de nos besoins et de notre passé. Tout dépend donc de la forme de présence que nous allons prendre. Parce que l'archive n'est pas synonyme de mémoire, de se tourner vers le passé. Parce qu'il dit visibilité, dit sélection, interprétation, autorité. Parce que tout dépend du modèle de l'archive que l'on se choisit et qu'il y en a qui vous ramènent direct au placard ou dans la tombe. Des archives qui sont la vie, c'est Back to the Future, sinon c'est la mort avec ses croque-morts et ses chambres froides. Les archives, c'est aussi des corps vivants et pas simplement des autorisations de dépôt ou des conventions de dons. C'est le fait de déclencher des archives écrites, mais surtout orales, visuelles, sonores, filmées, enregistrées a priori pour les mettre en circulation. Nous sommes des foyers d'archives. Nous sommes les sources diverses et variées des thématiques d'archives que nous souhaitons faire émerger. Nous sommes tous possiblement des archivés vivants.
Trans FM, Trans FM.
On est de retour dans les studios de Radio Calabre 88.4 FM à Marseille. On vient tout juste d'entendre un enregistrement dans lequel il y avait quelques documents d'archives. Déjà la musique c'est Octa Octa, une chanson qui s'appelle Loops for Healing. Et par ordre d'apparition, on avait Coccinelle, qui est un extrait de l'émission Les dossiers de l'écran diffusé sur Antenne 2 en 1987. On avait également Sylvia Rivera, dont sa prise de parole extrêmement connue à la Pride de New York en 1976. Karine Espinera également qui parle dans une rencontre en ligne qui a eu lieu au Lila Festival Pride du 24 juin 2021 et Sam Boursier au colloque international Les perspectives de genre et de sexualité dans la création artistico-littéraire francophone contemporaine en novembre 2018.
J'adore les perspectives de genre et de sexualité.
Voilà. Tu veux nous en dire plus sur les perspectives de genre et de sexualité, Edna?
Non, pas du tout.
D'accord. Je te laisse parler musique.
Hein. Et juste pour info, Octa Octa, donc, dont on a entendu la musique dans ce montage, jouera... Attends, est-ce que c'est du live? Non, je crois que c'est en DJ set avec Iris Drew lors du festival Le Bonheur à Marseille le 5 juin. Je crois que c'est le dimanche dans la journée.
On a très très hâte.
On a très hâte et on va essayer d'aller l'interviewer.
Ah, primeur.
On ne sait pas encore.
T'en es où dans les prises de communication? Est-ce qu'elles nous ont répondu sur Instagram?
Elle m'a répondu sur Instagram.
Oh my god.
J'étais comme ça.
Une affaire à suivre.
Voilà. Donc en attendant, un petit peu de musique. Pour cette émission, je me suis dit que j'allais essayer de parler plutôt de musiciennes et productrices françaises, après avoir beaucoup parlé de ce qui se passe aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Donc on commence avec une actrice, DJ et musicienne française qui s'appelle Nana Benhamer, qui se décrit comme ça. Nana Benhamer est née dans un hôpital de banlieue un jour de printemps dans les années 90. Elle est chanteuse et DJ. Elle a appris à mixer dans une annexe de la Madrag à Tchernobyl. Quand elle n'est ni chanteuse ni DJ, elle gobe du LSD dans son HLM grâce à l'argent de ses APL.
Waouh!
Voilà. Vous avez pu l'avoir joué dans le film De la Terreur, mes sœurs, et plus récemment dans Les Démons de Dorothy, où elle joue Petula, la productrice de films accro à la hype. J'ai donc découvert très récemment qu'elle était aussi DJ et qu'elle donne des jolis noms à ses mix comme J'aimerais beaucoup fenêtre.
Mais Edna, garde ton sang froid.
Excusez-moi. Donc son dernier mix qui s'appelle J'aimerais beaucoup me défenestrer, mais j'habite au premier étage.
Mais quoi?
Mais j'habite au premier étage.
Mais dis donc, elle a quand même un sens de l'humour.
Voilà. Ou mix Everyday Doctissimo, Everyday Cercueil. Désolé, j'en peux plus. Voilà.
Emma, s'il te plaît.
Allez, hop. Donc l'ambiance musicale est à l'image de ses noms, des sons électroniques distordus, des rythmes assez rapides qui partent un peu dans tous les sens. C'est hypnotique et dérangeant, c'est pas très catégorisable, mais c'est néanmoins très dancefloor. Comme elle le dit, ça fait vlam, ça fait splatch, ça fait ch'touk. Au niveau de son taf de musicienne, maintenant, elle fait des trucs sur son ordinateur depuis le lycée et a sorti en 2017 un album qui s'appelle Ninfa. Nymphe en italien, peut-être. J'ai l'impression d'y retrouver beaucoup d'influence des sons qu'elle mixe, avec une grande recherche sur les rythmes, même si c'est beaucoup plus pop. Sa voix, présente aussi sur tous les tracks, nous chante des histoires de voyage, de sorcellerie, de fêtes, de mélancolie.
Wow.
Ses fictions sont accompagnées de mélodies de synthé assez tranquilles et lyriques qui plantent habilement les décors, entre forêt, marais, dans la nuit, au soleil.
T'étais dans quel état quand tu écris tout ça?
J'ai adoré cet album, j'étais hyper sensible à ce qu'elle faisait, c'est les paroles et tout, enfin, ça m'a beaucoup parlé. Donc on va écouter la chanson qui s'appelle No Rave Glycine, qui est la plus dancefloor de cet album.
Mais même les anges ont cessé leur merveille. Et y a
Voilà, c'était donc No Rave Glycine de Nana Benamer. Désolé pour le fou rire pendant la présentation, j'avais oublié à quel point elle était drôle.
Et toi aussi, t'es super marrant, Nana. On t'adore.
Et je craque aujourd'hui.
Excellent. Tu voulais rien? Ok, je
pense que
tu voulais rien. Parfait. Eh bien, moi, je vais enchaîner avec un deuxième fait saillant d'actualité, comme promis. Ce mois-ci, je vais vous parler de sport et plus précisément de natation. Et Anna, c'est pas pour vous partager mes prouesses à la piscine Valier. Non, non, non. Tu sais que je nage à chaque semaine à la piscine
oui,
Valier.
Ah, je sais.
Et tu sais ce que c'est de nager quand t'es trans à la piscine Valier?
J'imagine très bien, c'est pour ça que je le fais pas.
Non, mais ça se passe très bien.
Je préfère aller faire de la boxe avec.
Oui, je comprends. Après, moi, dans l'eau, on m'appelle madame et quand je sors de l'eau, on dit rien, on regarde mes grandes jambes poilues avec un regard hagard. C'est assez drôle. Bref. C'est pas du tout de ça que je voulais parler. Non, je voulais vous parler de la nageuse Lia Thomas, 22 ans, qui est la première femme transgenre américaine à remporter un championnat universitaire. Ça s'est passé le 17 mars dernier à Atlanta. Lia compétitionnait dans la catégorie féminine, of course, c'est une femme. Et le fait qu'elle remporte l'or a soulevé tout un débat de ce côté-là de l'Atlantique. Il y a même des groupes de mères anonymes qui sont sortis dans les médias pour défendre leurs filles cisgenres face au scandale de voir une personne née garçon pouvoir compétitionner chez les filles. Il y a même une photo, je sais pas si t'as vu ça passer, mais il y a une photo qui circule qui montre la remise des médailles où on voit Lia Thomas qui est seule au sommet du podium tandis que les autres filles qui ont gagné les titres plus bas se regroupent toutes à l'écart un peu en guise de protestation. Elles se mettent à côté, elles sont hyper fières de montrer publiquement qu'elles sont contre le fait que Lia Thomas, femme trans, ait remporté le prix alors que c'est en plus historique. Est-ce qu'on peut pas des fois célébrer? Non, c'est pas possible. Donc la photo en soi, je la trouve vraiment difficile à regarder, c'est assez violent et j'ai eu l'affreuse idée de regarder la vidéo de la remise des médailles et là, Anna, je te jure, j'ai vomi dans ma bouche. En fait, tout le public eut Lia Thomas à la remise de son prix.
Sérieux.
Donc, je résume un peu la situation. Une femme qui compétitionne chez les femmes et qui gagne, notamment parce qu'elle est plus grande que les autres, eh ben, c'est vraiment ça, le scandale. Et oui, voilà, c'est scandaleux. Et dans le magazine Sport Illustrated, Lia Thomas a été surnommée l'athlète la plus controversée aux États-Unis. On y apprend que Thomas est devenue l'obsession de la droite américaine, qu'elle est constamment citée avec son dead name sur Fox News, et que ses coéquipières livrent quantité de détails sur ses habitudes au vestiaire. Donc en gros, Lia est victime d'une campagne de salissage purement transmisogyne qui dépasse largement la question de ses performances sportives. C'est plutôt l'idée que l'idéologie transgenre, là, entre guillemets, envahit le sport et qu'il faudrait absolument défendre les vraies femmes contre les méchantes trans. Mais revenons à la question de la performance. Est-ce que le fait d'être une femme trans, sachant qu'elle a dû être hormonée depuis un an pour rejoindre la catégorie féminine, est-ce que ça donne un avantage sur les femmes cis? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et mis à part les arguments des TERF, c'est-à-dire les féministes qui sont contre les personnes trans dans les milieux féminins, les argumenteurs qui disent tout le temps et qui répètent ad vitam aeternam que le fait d'être né garçon nous confère de facto plus de privilèges, même après avoir transitionné. C'est quoi, en fait, les arguments scientifiques qui prouvent que les meufs trans ou encore que les personnes intersexes aussi ont un avantage sur les meufs cis dans le sport? Parce que c'est quand même une question qui revient régulièrement sur le tapis. Genre, on se rappelle de la championne olympique de course, Castor Semenya, qui a dû révéler son intersexuation, ou plus récemment à l'haltérophile d'origine néo-zélandaise Laurel Hubbard, première femme trans à participer aux Jeux olympiques à Tokyo cette année. Chaque fois, en fait, la presse de droite crie au scandale. Eh bien, la grande donnée qui légifère actuellement la participation des personnes transféminines aux catégories sportives féminines, c'est le niveau de testostérone. C'est là-dessus que le Comité olympique international, que le World Athletics se base pour déterminer qui peut participer dans quelle catégorie dans les sports. Mais dans un article publié sur XY Media, sur lequel je suis tombé en faisant mes petites recherches, on apprend que ce type d'argument scientifique ne prouve pas grand chose en termes de performance sportive. En plus d'établir de façon complètement arbitraire les normes de féminité et de masculinité, parce qu'en fait le taux d'œstrogène ou de testostérone dans ton corps, c'est pas le seul aspect qui détermine si t'es un homme ou une femme ou entre les deux ou rien du tout. En fait, il existe si peu de données concernant les athlètes trans que les grands organismes, là, comme le Comité international olympique, compensent en se basant plutôt sur des recherches qui concernent les personnes cis ou les personnes trans non sportives. Donc là, je vais citer l'article de XY Media qui dit, par exemple, des 49 articles cités par le World Rugby dans sa décision de bannir les femmes trans de la catégorie féminine, seulement 15 articles concernent les personnes trans en général, pardon, et aucun article ne concerne les athlètes trans. C'est-à-dire que les athlètes trans, une sous-catégorie de population avec des caractéristiques spécifiques, sont contrôlés avec des données qui ne les concernent pas. Les femmes trans ont ainsi été exclues des compétitions de rugby sans aucune preuve du danger qu'elles représentaient pour les rugby femmes cis. Les rugby women cis, pardon. Donc, fin de la citation de l'article de XY Media. Et en plus, dans les études qui sont citées par les grands organismes internationaux très très sérieux et friands de science, dans ces études-là, on vient par exemple à révéler que la transition hormonale ne change pas la densité osseuse. Donc une femme trans, c'est-à-dire nous, aurait la même densité osseuse qu'un homme cis. Et c'est un élément qui a été cité comme argument en faveur de l'exclusion des femmes trans par le World Rugby. Par contre, il n'y a absolument aucune étude qui mentionne quels sont les effets de la densité osseuse sur les performances sportives. Donc, il n'y a absolument rien qui prouve les avantages des femmes trans dans les performances sportives comparativement aux femmes cis. Et sachant que les muscles diminuent sous hormones, reste que la grandeur comme argument. Et plus on est grande, ben forcément, on a aussi une masse musculaire correspondante. Et qu'on soit une femme cis ou une femme trans grande, ben on va avoir des masses musculaires correspondantes à notre grandeur. Donc, est-ce qu'on peut reprocher à une femme d'être trop grande pour être une femme? Voilà, sérieux, j'ai mal au crâne. Ça me saoule. Donc, je vais m'arrêter là. Mais si la question vous intéresse, je vous conseille fortement la lecture de l'article qui s'intitule « Le masque de l'objectivité. Comment la recherche scientifique contribue à l'exclusion des femmes trans dans le sport » qui a été publié chez nos consoeurs de XY Media. Et dernier fait scandaleux, on y apprend notamment qu'une des seules études qui traite des athlètes trans a été rédigée par une TERF qui signe par ailleurs des tribunes transphobes contre l'idéologie transgenre. Non mais vraiment, la science, c'est pas du tout là pour nous aider. Voilà, j'ai terminé, Edna, je me tais. Je pense que c'est à toi de poursuivre avec encore une sélection.
Moi, ça me fait penser à quand j'avais cherché de la représentation dans la boxe ou le MMA de femmes trans, et du coup j'avais... chercher naïvement boxe, Muay Thai ou MMA femme trans sur Google, et les 40 premiers résultats, c'était une athlète ou un athlète transgenre défonce le crâne de son adversaire, femme. Il y a une combattante de MMA qui a effectivement mis KO et fracturé le crâne de son adversaire, mais du coup tous les résultats étaient concernés, genre ce cas précis, cette personne qui s'appelle Fallon Fox
en le genre en masculin.
Oui, évidemment.
Bah, c'est exactement ce que je trouvais sur Lia Thomas, c'est la même chose en fait, ils font tellement plaisir en deadnaming constamment et voilà. Mais bon, rien de nouveau de toute façon, de quoi on s'attend, hein? À quoi on s'attend?
Rien de nouveau.
Et voilà. Et c'est pour ça que nous on existe. Bah non, mais pour faire des représentations plus positives de tout ça. Bref.
Allez. Alors, continuons avec maintenant on va parler beaucoup plus proche de nous, de Trisana, avec 2 T, 3 T en tout dans son nom, membre du collectif Paillette qui vit et travaille à Marseille. Elle a sorti il y a quelques mois son nouvel EP, Extra Sensitive, sur le label viennois Ashida Park, le même label d'ailleurs sur lequel est sorti un des premiers tracks de notre star locale Moïsha 13. Elle mixe et produit de la musique depuis quelques années, anciennement sous le nom P6R6K, excusez-moi, mais c'est plutôt l'année dernière qu'elle s'est fait connaître en sortant Walk to the Cove, son premier EP, et l'EP de remix, dont les bénéfices ont été reversés au Fast d'Acceptes. Elle fait de la musique depuis longtemps, elle fait de la MAO depuis 16 ans, et en fin d'études des Beaux-Arts à Marseille, elle présente une performance centrée sur un DJ set qui lui permet d'en sortir diplômée.
C'est quoi la MAO,
composition de musique assistée par ordinateur.
Ah d'accord, merci.
Voilà. Bref, elle a commencé à travailler sur son dernier album pendant le premier confinement, en même temps qu'elle commençait son THS. Elle le décrit comme une expérience dark pop post-club éthérée. De cet album, on va écouter la chanson E-Girl, parce que c'est ma chanson préférée, mais aussi parce qu'elle lui a consacré un fast track, une vidéo où elle décrit la genèse technique et le processus créatif à l'origine de la chanson, que vous pouvez retrouver sur son Instagram.
No cambies mi valor, mientes cuando tienes miedo. Llegó como mantis en la flor, yeah. Como mantis en la flor, yeah.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 FM et avec Edna et Heidi pour l'émission Trans FM. Et c'est maintenant le moment de vous présenter une super rencontre qu'on a faite, Joséphine et moi, le mois dernier, je crois, un petit peu plus. Il s'agit de Clovis Maillet, qui est un historien spécialiste de la transidentité au Moyen-Âge. Clovis Maillet est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans » qui a été publié en 2020 aux éditions Arquet. Et il était de passage pour une conférence aux Beaux-Arts de Marseille le 15 février dernier. Voici le fruit de cette rencontre, un montage signé Joséphine.
Devant vous, juge compétent, à ces fins que la femme nommée vulgairement Jeanne la Pucelle ayant abandonné complètement, sans vergogne, la décence convenable à son sexe, séductrice des princes et du populaire, ayant permis et consenti au mépris et dédain de Dieu, qu'on la vénéra et l'adora en donnant ses mains et ses habits à baiser, hérétique, ou du moins véhémentement suspecte d'hérésie, et que sur cela, suivant les sanctions divines et canoniques, elle soit punie et corrigée.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur TransFM, sur Radio Galère, ici Joséphine. Nous sommes dans mon alma mater, l'école supérieure d'art et design de Marseille Méditerranée, qui se retrouve dans les calanques tout au sud de la ville, où vous entendez peut-être le bruit des petits oiseaux et du vent dans les arbres. Nous allons assister, aujourd'hui 15 février, à une conférence de Clovis Maillet. Clovis Maillet est un historien de l'art qui a après une thèse sur la parenté chez les saints. Il s'est imposé comme une référence sur les questions du genre et de la transidentité dans la culture médiévale. Historien de l'art, artiste, et déjà merci, c'était une conférence absolument, c'était épatant, c'était très très intéressant. Donc vous avez fait une thèse en histoire et par la suite vous avez entrepris l'écriture de ce livre dont nous avons parlé. Pouvez-vous nous raconter le pourquoi et le comment vous avez choisi de descendre cette piste de recherche?
Alors le point de départ de cette recherche, c'était vraiment venu de ma thèse au départ, même si c'était pas le sujet de la thèse, mais j'ai travaillé sur la légende dorée de Jacques de Voragine, qui est le best-seller de la fin du Moyen-Âge, publié, on en a gardé plus de 1000 manuscrits, ce qui est immense pour cette époque-là, et dans ce livre donc très fortement diffusé, il y a 178 chapitres, dont à peu près 120 vies de saints, et sur ces 120, il y a 4 saints qui sont des personnages trans, qu'on peut décrire un petit peu en détail. Je dis ça pour dire que ça m'est apparu qu'il y ait 4 dans ce livre qui est la référence sur la question, qu'il y ait 4 personnages sur une centaine, ça fait quand même voilà, presque 3% disons des saints qui faisaient partie du canon de l'époque qui sont des personnages trans. Donc c'est quand même non négligeable par rapport à ce qu'on peut imaginer de la représentation même aujourd'hui en fait dans les lieux de culte. On compare parfois les saints aux stars de cette époque et donc je sais pas si on aurait les mêmes proportions aujourd'hui même si on essayait de le comparer. Et donc ça a attiré un peu mon attention et j'ai commencé je pense doucement et avec une histoire un peu complexe à essayer d'étudier au début ces 4 chapitres, les sources qui avaient dessus et puis de fil en aiguille en tirant les chevaux, je me suis dit que il fallait vraiment réfléchir plus en profondeur à la manière dont on définissait le genre au Moyen-Âge par rapport à la manière dont on le définit aujourd'hui. Et ça pouvait expliquer pourquoi il y avait cette espèce de décalage dans la réception entre quelque chose qu'on peut nous sembler étonnant, extraordinaire, marginal aujourd'hui et la manière dont c'est finalement très bien intégré dans le canon, dans la culture médiévale.
J'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que dans le fond les personnages trans sont toujours représentés dans le lien avec le religieux, Mais est-ce qu'il y en a eu en lien avec le politique ou dans la sphère un peu civile, ou je sais pas comment on la nomme à l'époque, mais est-ce que c'est que dans la sphère religieuse que la transidentité, entre guillemets, était possible ou acceptée ou célébrée même?
Alors, célébrée, dans l'état actuel des recherches, oui. Il n'y a que dans cette sphère-là, effectivement. Mais bon, qui n'a pas du tout, il n'y a pas la différence entre le religieux et le non-religieux au Moyen-Âge comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, le pouvoir politique, il est aussi aux mains du pouvoir religieux, le pouvoir symbolique, il est aux mains de l'Église, qui a aussi une partie des institutions scolaires. Enfin, tout, c'est quand même un état Église, quoi, qu'à cette époque-là. Donc, on peut pas déconnecter non plus le civil du religieux comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus englobant. Donc, le fait que ça existe dans cette sphère-là, ça a des influences aussi sur beaucoup de couches différentes de la société. Mais ceci dit, dans la vie civile et en dehors effectivement du monde de la sainteté, on trouve des personnages trans, mais qui sont pas décrits avec des caractéristiques aussi positives, et notamment des personnages transféminins, on pourrait dire aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas on n'a pas cette valorisation. Et c'est lié effectivement, je pense essentiellement à une hiérarchie entre les genres très marquée à cette époque-là, qui est que vraiment de genre, puisque tout ce qui est du côté du masculin est valorisé, tout ce qui est du côté du féminin est plutôt dévalorisé. Donc ça peut permettre de comprendre pourquoi des parcours transmasculins vont avoir tendance à être assez valorisés en fait dans la société, tandis que des parcours transféminins vont avoir tendance à être beaucoup plus dévalorisés dans cette société-là.
C'est d'accord.
Et donc, génial, notamment pour finir de répondre à la question, on a quelques cas qui sont bien connus. Sans doute, on va en découvrir d'autres en fait, mais il y a des personnages de travailleuses du sexe qui semblent être des personnages trans. Certains sont peut-être des personnes que nous on dirait intersexes aujourd'hui et qui ont un parcours trans à un moment de leur vie, mais on est dans un cadre dans lequel la prostitution est aux marges de la société, donc est pas ni condamnée ni interdite, mais en tout cas pas forcément bien vue socialement. Donc il y a deux cas qui ont été bien étudiés par l'historiographie, le site comme ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Rolandina Roncaia, qui a ses deux prénoms, qui a arrêté à Venise, à une époque où la législation devient beaucoup plus dure vis-à-vis de la sexualité entre personnes de même genre, donc on appelait le tournant sodomite en Italie, c'est-à-dire qu'on va légiférer sur ce crime qu'on appelle la sodomie, qui est un crime un petit peu complexe, qui regroupe en gros toutes les sexualités non conformes, dont fait partie la sexualité entre personnes de même genre. Et cette personne, donc qui s'appelait Rolandina et parfois Rolandino, est arrêtée et accusée d'être relapse, c'est-à-dire d'avoir déjà été arrêtée pour des relations sexuelles tarifées, et donc c'est pas sa première arrestation, et cette personne est condamnée à mort là-dedans, après de multiples arrestations. Et on a voilà, à peu près à la même époque, une personne qui est arrêtée, qui pour le coup a l'air d'être véritablement une personne trans, qui est arrêtée à Londres dans un cadre où il y a beaucoup moins de répression sur la sexualité, et on a sa déposition, et cette Eleonore Reckoner qui est maintenant très bien connue dans les archives, parce qu'on a sa déposition en entière, donc elle raconte, bon, face à la police, hein, elle raconte à la police son travail, et elle dit que elle couche avec des hommes, des moines essentiellement, sous le nom d'Éléonore, et qu'elle couche avec des femmes sous le nom de John, démoniale essentiellement, et donc que en fait elle a une sexualité conforme, puisque elle a une sexualité vraiment, on dirait aujourd'hui, hétérosexuelle, et apparemment elle est relâchée.
Ce qui était génial, je me rappelle ce passage dans le livre où j'ai cru comprendre qu'elle est arrivée au tribunal en robe, en plus, et barbue en robe, elle est arrivée au tribunal comme ça.
on n'a pas tout, hein, on n'a pas tout. C'est toujours le problème avec ces sources-là, c'est que quand même on a des choses Mais forcément, souvent, on n'a pas la suite des événements, on ne peut pas recouper forcément les témoignages.
Waouh, ça serait tellement intéressant de savoir plus. Alors, ce qui, un truc qui traverse votre travail, c'est un peu l'idée de genre, comment est, les normes de genre et comment on considère le genre et surtout les personnes atypiquement genrées. C'était très différent en réalité à l'époque de ce que c'est le nôtre. Et à un moment dans le livre, vous avez employé le terme de Jacques Elbebrostam, vous employez le terme transgender gaze. Mmh. Et genre, je pense que pour beaucoup de personnes trans, on est souvent tenté de regarder l'histoire et de regarder des personnes de l'histoire et dire oh mon dieu, il est trans, genre, et de s'identifier vraiment beaucoup à des personnages comme Elio Gabal ou nanana, ou genre.
Jeanne d'Arc,
par exemple, effectivement. Et notamment par rapport à genre, des choses comme quand il s'agit par exemple du féminicide, pour parler de Jeanne d'Arc, ou quand il tout à l'heure dans ma conférence, vous avez évoqué l'exposition génitale forcée de Madame Marguerite, par exemple. Ce sont des choses qui résonnent, je pense, avec beaucoup de personnes trans aujourd'hui, même que ce soit pas forcément la même chose. Et à quel point, enfin, qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir ce regard trans actuel en 2022 et de se tourner vers le passé en s'identifiant très fort à des personnes qui devaient vraiment vivre une vie très très différente et dans une société qui conceptualisait le genre de manière complètement différente? Et est-ce qu'on n'est pas en train de nous perdre un peu, de les appeler trans même, ou est-ce qu'on peut se permettre cette petite plaisir de se dire « Oh, Elio Gabal, mon chou, je...
Eh ben, » Non, moi, pour le dire très simplement, je pense qu'on peut, on doit, on a le droit de faire une histoire trans, parce que ça fait trop longtemps qu'on a interprété en termes cis toute l'histoire.
C'est ce que je voulais entendre.
Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Et après, je pense qu'il y a quand même une deuxième étape qui est ensuite d'aller regarder dans le détail ce qui se passe. Mmh. Parce que le problème, c'est que si on ne porte pas un regard trans sur les choses, on croit que c'est des personnes cis. Et moi, je pense que dans l'histoire, il n'y a peut-être pas de personnes trans exactement dans le sens où on va penser les questions trans aujourd'hui. Mais il n'y a pas non plus de personnes cis au sens où on pense les questions cis aujourd'hui. Et donc, quand on... C'est comme quand on dit, donc je prends l'exemple, la question qui m'a été posée, quand on dit Hildegarde de Bingen est une femme. Je pense qu'on a le droit de dire que Hildegarde de Bingen est une femme. Après, c'est tellement différent ce qu'on met derrière le mot femme à cette époque-là de ce qu'on met aujourd'hui, que c'est déjà un décalage temporel total. Et donc, dans ce sens-là, on a le droit de dire que les gens sont des personnes trans. Voilà, il y a certaines personnes qui, objectivement, voilà, font une transition de genre dans leur vie, donc on peut les appeler trans. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'aujourd'hui. Mmh. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'uniforme qui regrouperait non plus, même aujourd'hui, toutes les expériences trans. Il y a quand même, on sait qu'il y a une variété qui est immense. Mmh. Il y a aussi une grande variété dans les personnes trans au Moyen-Âge. Mais il y a surtout voilà, d'autres manières de penser le genre, mais qui ne sont pas plus cisgenre qu'elles ne sont transgenre, en tout cas.
J'adore. Oh, super.
Est-ce qu'on vous accuse des fois de subvertir l'histoire ou de porter un regard qui serait anachronique et qui, est-ce qu'on disqualifie un peu de vouloir créer une histoire trans comme ça?
Ben, je peux répondre oui et non. Ce qui est amusant, c'est que depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, il y a eu beaucoup d'accusations diverses et variées. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas généralement des historiens professionnels ou des historiennes professionnelles avec qui on peut argumenter. Et juste vous raconter que moi, quand j'ai commencé à travailler ça, c'était dans le cadre de ma thèse, c'était avec des collègues médiévistes, des gens très sérieux. Et en fait, ça n'a jamais posé de problème. Je parlais de ces questions trans avec mes médiévistes dans des mondes très fermés, quoi, qui sont ceux des médiévistes. On regarde des textes, on les étudie, on les analyse et tout ça. Il n'y avait pas de problème. C'est à partir du moment où j'ai commencé à en parler dans des grands publics ou des milieux non spécialistes, où là, j'ai eu beaucoup d'accusations de disqualification, que ce n'était pas de l'histoire sérieuse, etc. Donc je pense qu'il y a plutôt une idée de ce que doit être l'histoire sérieuse qui elle est très informée par des perspectives conservatrices, parfois réactionnaires, parce que l'histoire du Moyen-Âge grand public, elle est majoritairement dominée par un monde réactionnaire, alors que l'histoire, disons, professionnelle et de spécialiste n'est pas du tout aussi réactionnaire que celle du grand public. Et donc, ça crée des décalages. Après, je ne vais pas vous dire, face à ce micro, que que c'est facile ou que je conseille à tout le monde, parce que effectivement, dès qu'on se penche dans l'histoire ou dans la recherche sur des sujets qui font débat dans la société d'aujourd'hui, eh ben, on en subit aussi les frais, et il y a des gens qui peuvent réagir très vigoureusement, et on peut se mettre en danger aussi. Mmh. Donc voilà.
Comment avez-vous osé toucher à la pucelle d'Orléans?
Mais je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. Et franchement, j'ai hésité. Et donc je peux le dire directement, c'est mon directeur de recherche, qui est un grand historien, qui s'appelle Jean-Claude Schmitt, qui m'a encouragée. Parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, je ne touche pas à Jeanne d'Arc. J'ai écarté ça dans un premier temps en disant, c'est vraiment le sujet casse-gueule par excellence, Jeanne d'Arc. Et en plus, on ne pourra jamais lire toute la bibliographie. Je crois qu'il y a 5000 livres sur Jeanne d'Arc. Donc c'est impossible de tout lire, et il y a des livres tous les ans. Mais en discutant avec mon directeur de thèse, là, Jean-Claude Schmitt, elle a dit... Mais si on parle pas de Jeanne d'Arc, quand même, on rate une partie du problème. Et donc, c'est parce que lui m'a encouragée, je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose sur Jeanne d'Arc. Et c'est comme ça, en même temps, que j'ai trouvé le plan du livre, et je me suis dit, peut-être je vais d'abord parler de problèmes que pose Jeanne d'Arc aujourd'hui, pour revenir par le petit bout de la lorgnette, parce que ce que je fais dans mon livre, c'est que je reviens pas du tout sur tout le parcours de Jeanne d'Arc, où j'essaye pas d'interpréter ou de donner une nouvelle interprétation à ce que serait le genre de Jeanne d'Arc, mais j'essaye véritablement, à travers les documents précis, de montrer qu'est-ce qui pointe, qu'est-ce qu'on peut pointer comme chose. Et j'ai quand même fait une découverte, donc c'est ça qui m'a... Parce que ça, je l'avais jamais lu avant, c'est cette chose que je dis, que dans le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, qui est moins bien connu que le procès parce qu'il n'a pas été traduit en langue moderne, et dans le procès de réhabilitation, il y a un chapitre qui justifie de l'habit de Jeanne d'Arc en faisant référence à des autorités qui sont Marin et Eugène, Sainte-Marine et Sainte-Eugénie. Et donc ça montre, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que non, on n'a pas vraiment d'argument pour mettre Jeanne d'Arc dans un parcours trans. On peut dire que son parcours pose plein de questions de genre, de complexes en tout cas, mais c'est pas un parcours où il y a véritablement une transition de genre, en tout cas, parce que là on a des documents assez bien de voir comment est-ce qu'elle s'appelle, comment est-ce qu'elle s'affirme, mais par contre, dans son procès, on la justifie en faisant appel à des personnages, notamment comme ce fameux marin là, qui est là véritablement un personnage trans pour toute sa vie. Donc il y a une association en tout cas qui est faite avec des personnages trans et qui est faite par les contemporains de Jeanne d'Arc.
Canonisée pour rien d'autre à part le fait d'être trans.
Ben voilà, c'était le cas de ce marin qui est connu sous le nom de Sainte-Marine, est véritablement un personnage qui n'a pas... dans son parcours de canonisation, il n'y a pas beaucoup de miracles, il n'y a pas beaucoup en fait d'exploits, à part celui, en fait, qui est mentionné, qui est de vivre toute sa vie comme un homme, alors que c'était une personne assignée femme à la naissance. Et puis d'avoir, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce cas-là, c'est un bon exposé, sa vie, sur la transparentalité, qui est un sujet aussi qui fait beaucoup débat aujourd'hui, puisque Marin donc, adopte un enfant dont on lui accuse d'être le père, mais dont il n'est pas le père légitime, mais il accepte cet enfant, puis il l'éduque, il l'est toute sa vie.
Cette histoire, elle est absolument fascinante. Je vous propose dans ce cas-là qu'on canonise en même temps Divine des films de John Waters.
La pauvre.
En fait, je sais pas si... Alors, une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvées dans votre livre, c'est par rapport à... aux personnages, disons, FTM, pour F to Moine, c'est que souvent, je trouve que dans le sens de cette histoire, il y a une histoire de statut social qui est profondément liée à leur transition, entre guillemets, aussi, et qu'on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est fait non seulement dans un cadre comme on pourrait faire aujourd'hui de, je sais pas, classique de dysphorie du genre et de envie de vivre une vie d'homme, mais aussi par une certaine idée d'ascension sociale. Je sais pas si qu'en pensez-vous de l'ascension sociale par voie de la transidentité?
Alors, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. C'est que c'est sûr que la transition transmasculine, c'est une ascension sociale. Parce que dans cette société-là, c'est une ascension sociale. C'est même effectivement pour ça que quand il y a des naissances intersexes, les médecins disent « faites-en un garçon, on pourra toujours en faire une fille plus tard ». Mais d'emblée, voilà, l'assignation masculine, c'est vécu comme une sorte de promotion sociale et c'est plus facile de redevenir une fille plus tard parce que c'est une baisse dans la société. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, devenir un moine, c'est aussi une ascension sociale. J'aime beaucoup le F to monk. C'est une ascension sociale. Et c'est aussi une manière d'échapper, souvent dans ces parcours-là, c'est pour échapper à un mariage forcé. Donc il y a vraiment ce truc-là. C'est que, il n'y a que les filles qui subissent des mariages forcés. Enfin, les garçons peuvent, mais c'est moins fréquent et c'est pas au même âge. Donc, souvent, effectivement, c'est pour échapper à un mariage. Donc, il y a aussi ascension sociale et puis il y a aussi de se protéger de ça.
De se protéger de ce qui pourrait.
Et voilà, rentrer en monastère, c'est une façon de rentrer aussi, d'avoir accès à une culture, un savoir et tout ça. Mais je voulais juste dire une petite chose, c'est que il y a une partie de l'historiographie qui a longtemps limité, en fait, ces transitions de genre à des transitions sociales. Mmh. En disant, c'est pour avoir accès à des droits auxquels ces personnes n'auraient pas eu droit en tant que femmes. Et donc, qui appelaient ces personnages-là des femmes travesties, qui se travestissaient pour accéder à des droits. Et donc moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que ça ne suffit pas à donner toutes les explications, cette recherche de droits supplémentaires, d'acquisition de savoir et tout ça, ne suffit pas, puisque ça n'explique pas tout, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis oui, mais c'est pas que ça.
Voilà. Oui, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Clovis Maillet, c'est absolument chouette. Je suis super, super contente de vous avoir eu sur l'antenne, sur TransFM Radio Galère. Vous avez envie de dire quelque chose encore, peut-être ? Vous avez envie d'un dernier mot ?
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'avoir été sur Radio Galère. Et je vais juste dire que je travaille en ce moment à essayer de faire un tome 2 de ce livre qui soit une histoire transféminine du Moyen-Âge.
Beaucoup de nos.
J'espère pouvoir faire. Et je reviendrai à Radio Galère pour vous parler du tome 2.
Vous venez à l'antenne quand vous voulez. On vous invite dans le studio. Vous venez quand vous voulez. C'était un grand plaisir. Alors, merci beaucoup, Clovis Maillet. Merci beaucoup, Lila Léger, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Et merci beaucoup à l'équipe de l'école des Beaux-Arts de Marseille, mon alma mater. Voilà.
Clovis Maillet, interviewé par TransFM. Juste avant cette interview, nous avons écouté les musiques de Jordi Savall, Guillaume Dufay, et maintenant, nous écoutons Hildegard von Bingen.
TransFM! sur Radio Galère.
On est de retour dans les studios. Alors, un gros merci à Clovis Maillet. On a très, très hâte de lire la suite de son livre. Et pour le moment, en tout cas, moi, je vous conseille vivement la lecture de Les genres fluides. C'est hyper passionnant, en fait, la question de la fluidité de genre au Moyen-Âge. Ça donne toute une perspective. En tout cas, ça donne l'impression qu'on a existé avant. Ce qui est quand même exceptionnel, toi. Alors, Sainte Edna, est-ce que tu veux poursuivre avec un dernier titre musical?
Du coup, un dernier son d'une personne transfemme sur laquelle je suis tombé au hasard de mes recherches sur les réseaux via Twitter et Instagram. Elle a 17 ans, elle s'appelle Oxidize, elle vient de Bretagne où elle étudie dans un lycée expérimental, ce qui lui permet d'avoir du temps pour faire de la musique ou de la photo. Elle s'inspire de Sexy Sushi et touche à plusieurs styles de musique électronique et expérimentale à l'aide de Fruity Loop Studio et d'un clavier maître, et aimerait donner plus d'importance à son projet musical. On va écouter sa dernière chanson, Solitude, qui est sortie il y a 2 mois. We'll be right back. Et voilà, on approche tout doucement de la fin de cette émission. Donc on va finir par un petit agenda communautaire de Marseille et les environs. Alors accrochez-vous à vos agendas et vos stylos parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mois prochain. Alors déjà on commence par demain le 26 avril, jour dit de la visibilité lesbienne. Les assises lesbiennes de Marseille appellent toutes les lesbiennes, oui, Gwyn B, à descendre dans la rue à 19h sur le Vieux-Port. Et plus que pour la visibilité, elles appellent surtout à marcher contre la lesbophobie et contre le système hétéropatriarcal qui régit nos vies.
Bim.
Ce samedi 30 avril, c'est la soirée de soutien à l'équipe de foot queer féministe de Marseille, le Drama Queer FC, à la Darla Mifa, en mixité choisie sans mixité hétéro. Au programme, une performance de Hortense Bellot sur le football féminin, une tombola et des DJ sets. Toujours à la Darla Mifa, le 7 mai, c'est la soirée de soutien des assises lesbiennes. Encore et toujours à la Darla Mifa, donc on va y passer tout notre mois de mai. Le 20, c'est la soirée de soutien de mémoire des sexualités.
Oui.
Avec au programme, entre autres, une performance de Perla Ranieli et 5 heures de DJ set de 21h à 2h du mat. DJ Hétérocide, DJ Douceur, Edna, Rami, Pueblo Fantasma et Machine.
Et juste pour ajouter, c'est une soirée de soutien pour financer les travaux du nouveau local de mémoire des sexualités.
Mais ça va être le feu, en tout cas, sur le dance floor.
Toujours.
Le 23 mai prochain à 16h, c'est la prochaine émission de Trans FM. Le 21 et le 28 mai, vous pourrez assister aux représentations du spectacle Dans mon dessin. Il s'agit d'une performance multimédia dans laquelle Jenny Charton questionne sa transition de genre comme un départ sans retour. Ça a été écrit en collaboration avec Luce Folkman. Le 21, ce sera au Théâtre de l'Œuvre, et dans le 28, dans le cadre du festival Transforme.
Mais qu'est-ce que ce festival Transforme?
Eh ben, tant qu'on est, le festival
jamais
Transforme.
Jamais entendu parler de ce truc.
Ah ben, t'étais pas à Marseille avant le confinement du coup.
Ah non.
Enfin, je pense que c'est oui, il y a pas eu pendant le confinement.
Ah du coup, d'accord.
Donc le festival Transforme qui aura lieu à Marseille du 25 au 29 mai. Il s'agit d'un festival de création queer contemporaine avec au programme entre autres Abby Beach, Gorge Bataille et Mona Cerveau, Joël Sambi, Sarah Machine, John Deneuve et bien d'autres. Et en même temps que Transforme, si vous voulez plutôt vous foutre sur la gueule, il y aura un gala de boxe populaire, la Grande Chamaillerie, organisée par l'Amicale du Combat Libre de Lyon, qui aura lieu donc à Mince, dans le Trièves. Donc pareil, 25-28 mai, au programme des ateliers de boxe anglaise, de Muay Thai, de MMA, de Jiu-Jitsu et des combats, si vous voulez, le samedi soir.
Est-ce qu'on va pouvoir te voir combattre?
Oui.
Oh my god, ok.
Je réitère et j'ai le gros projet de faire un combat en high femme, en robe, maquillée intégralement.
Maquillée intégralement, tout ton corps?
Non, pas tout mon corps.
T'en fais tellement
gros
toujours
maquillage,
trop.
Maquillage, robe, etc.
Trop
sur
bien.
Le ring.
Waouh, t'as jamais vu. On en fera des archives.
On en fera des archives.
Bon, ben on arrive à la fin de l'émission. Il est 17h55. Et merci Edna d'être là.
Merci Heidi.
Fidèle au poste. Et merci à Amy qui est avec nous à la régie depuis toujours et de façon éternelle. Voilà, t'es engagé. Ouais. Et sinon, la prochaine émission, c'est le 23 mai 2022 à 16h30 et non à 16h10. Bon, bref. Et on voulait en profiter pour dire qu'on est toujours ouverte à Trans FM pour que des gens viennent nous rejoindre. Là, on est deux, on sait pas trop ça va être quoi la constitution pour la suite parce que ça bouge un peu tout le temps. Mais en fait, ce qui était important pour nous.
On remercie aussi Paul et Joséphine pour les montages.
Oui, exactement. Oui, oui, c'est vrai. On est deux en studio, je veux dire. Mais il y a plein de petites souris qui travaillent aussi à l'extérieur. Mais bon, on a envie aussi de travailler avec des personnes avec qui on partage un peu des bases politiques communes. Et qui ont envie un peu de profiter du fait qu'on peut avoir l'antenne pendant une heure et demie comme ça une fois par mois pour passer du matériel et des discours qui nous ressemblent et dont on a envie et en termes d'anti-oppression, que ce soit anti-raciste, anti-homophobie, des trucs... Oh mon Dieu, j'oublie plein de choses. Aide-moi sur les oppressions, s'il te plaît.
Bon, insérer liste des...
liste des oppressions, validisme et compagnie. Et en tout cas, ça va me faire plaisir de trouver d'autres potes transfemmes avec qui travailler, que vous soyez de Marseille ou d'ailleurs. Qu'est-ce que tu me dis sans parler?
On s'était dit aussi qu'on ouvrirait éventuellement la mixité à trans tout court.
Ah, mais ça, on sait pas. Non, mais attends, on peut pas dire ça maintenant comme ça.
Coupé.
Non, mais on verra, oui. Mais en tout cas, on est ouverte et voilà.
Super. Et ben, au mois prochain.
Yes. Bisous, bisous.
Bisous.
Trans FM.
Galère.
Trans FM. Trans FM.
On galère.
C'est pas pour vous cette émission.
Trans FM.